Nous prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être crue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Gisèle.
Ouais.
Merci.
C'est mieux comme ça. Notre première lecture se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Nous lisons plusieurs versets, c'est 1 à 2, 8 à 9 et 12. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sur le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessus le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Versets 8 à 9. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient, à descendre dans la vallée du Jourdain, et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson serait très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. » Verset 12. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et les fleurs et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur.
La deuxième lecture, c'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, les versets 9 à 11 et 16 à 17. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation, un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon où il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Troisième lecture, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 2, les versets 13 à 22. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla entre les morts, ses disciples se rappellent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu.
Qui c'est qui aimerait aller à côté hein, ce qu'on fait une... Vous sentez que ça va? Vous tenez tout?
Ça va, oui.
Ça va, moi. Ouais. Alors, je vous propose de lever pour prier et puis on chante peut-être un chant de louange. Tout ça, ça devrait être sur vos tiens. Puis on va faire des. Comme tous les skis. Qui est dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, pour la vie qui nous entoure, pour la nature, pour les rivières, pour l'eau qui coule en abondance. Pour ce soleil que nous recevons cet automne, les couleurs des feuilles. Ô Dieu, que cela, nous puissions le percevoir pour le chant de ta présence, de ton intelligence, de ta sagesse, qui nous accompagne, qui est là pour nous inspirer. Merci, ô Dieu, de venir à toi avec celles et ceux qui nous tiennent à cœur, que nous portons dans nos cœurs. Nous les entourons de notre lumière, nous les invitons ici aussi avec nous pour ce moment de méditation. Amen. Nous pouvons chanter le chant.
Si vous faites mémoire des lectures que vous avez entendues, est-ce qu'il y a un mot, une parole que vous retenez plus particulièrement dans ces différentes lectures? Est-ce que quelqu'un pourrait dire, par exemple, ah ben moi, de ces lectures, il y a ce mot que je retiens, mais c'est pas...
C'est l'eau qui coule.
L'eau qui coule, hein, oui. Je ne sais pas si vous avez... On avait photocopié les textes. Vous pouvez les donner, comme ça on va les donner. Comme ça vous aurez les différentes lectures pour les avoir chez vous si vous le désirez. En ce dimanche 9 novembre. Ézéchiel, c'est un texte frappant. Si vous allez voir la lecture complète, vous verrez c'est vraiment une eau qui déborde. Même qu'on n'arrive pas à la traverser, ça devient comme un torrent. Cette eau qui vient de la maison de Dieu. C'est juste marqué la maison en hébreu. La maison... Parce que c'est ainsi qu'on appelait le lieu où on allait au temple, on appelait la maison de Dieu. Tous ces textes qui nous sont donnés, on peut les lire comme des histoires qui sont arrivées, avec cette histoire de Jésus qui chasse les vendeurs du temple. C'est des histoires qu'on... On ne raconte pas si souvent, mais quand même, c'est presque comme du cinéma, on pourrait raconter aux enfants. Et puis, Ézéchiel, au chapitre 2, il dit, la parole, on doit la... Quand ils ouvrent le rouleau de la parole de Dieu, c'est écrit à l'extérieur, au dehors et au dedans. Elle est à manger, on doit en découvrir le sens extérieur et intérieur. C'est comme la vie qui nous est donnée, on peut la voir comme la vie visible, et on doit en découvrir aussi le côté invisible. Et donc c'est un grand défi pour nous de comprendre la vie dans son sens visible et invisible. Et on voit que Jésus, si on va voir ce texte, on voit qu'il est dans l'évangile de Jean au chapitre 2, le dernier texte sur votre feuille. Quand il se fâche, il chasse les vendeurs du temple. Dans les autres évangiles, c'est mis juste après les rameaux. C'est vraiment juste avant sa mort. Tandis que Jean l'a mis juste après le miracle de Cana, quand il change l'eau en vin. Et donc, on voit qu'il y a une abondance quand il redonne du vin. Hein, l'eau devient vin. On sent un signe d'abondance. Et quand il chasse les marchands, on voit que c'est comme s'il veut faire place à cette abondance. Il aimerait que chacun la déguste, si on veut. Et quand il va dans ce temple à Jérusalem, c'est ce qu'on appelle le parvis des païens. Ce n'est pas encore le Saint des Saints, c'est ce qui est à l'extérieur, où étaient les gens aussi d'autres religions. Et on voit que c'est plein de gens qui font du commerce. Alors si on se dit qu'on doit toujours écouter ces textes pour nous-mêmes, hein, c'est pas qu'une histoire extérieure. On peut se dire, mais alors où est le temple, où est Jésus, hein? On voit que les mystiques ils disent c'est votre cœur, c'est en vous-même. C'est pour ça que les chrétiens ils n'ont pas cherché à rebâtir le temple de Jérusalem, puisque ce temple il est en nous-mêmes. Hein? Donc le temple qui est ici, c'est vraiment un lieu, on peut dire privilégié pour se rappeler la présence de Dieu. Mais c'est vrai que ce n'est pas le lieu qui contient Dieu, puisque Dieu n'est pas ailleurs que partout. Donc il est tout autant dehors que dedans. Mais en venant à l'église, on se rappelle ce mystère de la présence de Dieu en toute vie, hein, dans la vie de la vie. Et dans Ézéchiel, quand il parle de cette eau, la vie apparaît... Si on voit le chat, bon là il n'y a pas les versets, mais le poisson sera très abondant car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, la vie apparaît en tout lieu. C'est vraiment en hébreu, c'est la vie de la vie. C'est ce que Jésus après a appelé la vie, l'eau vive. Hein. C'est vraiment une double vie. Ézéchiel il parlera d'un double torrent. Cette vie qui est en nous, dans notre corps, elle est bien plus énergique qu'on imagine. Même si des fois on est fatigué, des fois on se dit mais j'arrive pas à trouver l'énergie. Pourtant, elle est là en nous. Chaque cellule a une vigueur absolument phénoménale puisque on sait qu'il y a cette énergie quantique. Hein. Il y a plusieurs phases de la vie. Elle est carrément infinie. Elle est atomique, cette puissance qui nous habite. Et c'est pour ça qu'elle est. Elle est miséricordieuse, elle nous entoure, elle nous donne tout le temps, comme ce torrent qui sort de sous le temple. Dans cette vision d'Ézéchiel, ce n'est pas le temple lui-même qui a cette grande vitalité, c'est même en dessous de lui. Et c'est pour ça que les chrétiens, les religieux, on doit faire attention à ne pas dire « c'est nous qui l'avons ». Parce qu'elle vient de la nature, elle vient de la vie même. Elle n'appartient pas aux chrétiens, elle n'appartient pas aux musulmans, elle n'appartient pas aux bouddhistes. C'est une vie vraiment qui est infinie, comme cet infini qui est dans un vase. Vous voyez, le mystique, il parlait de « nous sommes le vase de la déité ». Si vous prenez un vase de fleurs chez vous, si vous regardez à l'intérieur, l'espace qui est dans le vase, c'est l'espace qui est dans l'univers. Et donc, on peut dire que l'intérieur du vase contient l'infini. Et on peut dire la même chose, nos cellules, elles sont comme le vase, elles contiennent l'infini. Et tout autant chez les bouddhistes, chez les musulmans, chez les païens, et on voit que le temple de Jérusalem, il accueillait les non-religieux ou les non-juifs eux-mêmes pour dire que cette présence, on doit faire attention de ne pas la rétrécir. L'amour, il appartient à aucune tradition. Il est dans toutes les traditions. Et on doit faire attention de pratiquer notre foi pour élargir et pas pour rétrécir. Et ce n'est pas si facile. On a tendance à dire qu'il n'y a que nous. Mais on voit que Jésus, on voit dans les Corinthiens, quand il dit « la pierre de fondation, c'est Jésus-Christ », Jésus-Christ, c'est vraiment celui qui était ouvert à toutes les traditions, pas comme les pharisiens qui rétrécissaient. Jésus avait le cœur large et nous devons avoir le cœur large. Et donc, Jésus, il est là en nous, il vient voir comment c'est en nous. Et des fois, il pourrait peut-être être, je ne sais pas s'il pourrait être effrayé ou au contraire, il serait ébloui du vide qu'il y a en nous, de l'espace qu'on a fait à Dieu. Moi, c'est temps. Bon, je suis retraité, donc j'ai le temps de m'occuper de la maison, du garage, qui est plein de chenilles. Puis tout d'un coup, on est des fois effrayé de tout le chenille qu'on a à la maison. Alors ça, c'est la première étape, c'est quand même de faire un peu d'ordre, hein, de faire de la place. Des fois, on a trop de choses dans nos maisons, vraiment physiques. C'est trop plein, il y a du trop plein. Hein. Et souvent, les gens âgés, ils ont encore beaucoup plus, puisqu'on a accumulé pour des années et des années de matériel. Et faire de la place, c'est quand même pas si mal. Aussi pour faire place à Dieu. Et puis après, si on s'arrête chez nous pour faire la prière, des fois on est assailli de pensées, assailli de soucis, de calculs. Et donc on est comme les marchands du temple. Hein. Et donc les marchands du temple, c'est aussi dans notre tête. Hein. C'est où quand on met tout en... Tout est commerciable, hein. Même la spiritualité, on peut en vendre, on fait de tout l'être humain. Aujourd'hui sur la terre, il a fait de tout des choses qu'on peut vendre et acheter. Hein. Tout est commerce. Et donc on voit que Jésus, il dit arrêtez, écoutez, comme la vie, c'est pas quelque chose qu'on achète, c'est pas quelque chose qu'on vend. Et donc on va devoir trouver son chemin pour retrouver cette abondance. C'est vrai que l'histoire de notre vie, ou l'histoire humaine, ou l'histoire des actualités, ça ne nous fait pas penser que la réalité est bonne, qu'elle est abondante. On a plutôt l'impression qu'elle est un peu dure et épuisante. Donc on va devoir trouver chacun notre chemin pour retrouver cette abondance, parce que l'abondance est là. C'est simplement qu'on ne sait pas comment la trouver. C'est comme l'inconscient, il est là, mais on ne sait pas comment l'atteindre. Ou la réalité quantique, on ne la voit pas, mais elle est là. La sagesse de Dieu, elle est là, mais on ne sait pas comment l'atteindre. Et chacun de nous, on a fait un petit peu l'expérience dans sa vie. Si vous faites mémoire de votre vie, il y a sûrement des moments dans votre vie où vous avez senti que vous étiez comme infini, que vous étiez vaste, qu'il y avait une force qui vous accompagnait extraordinaire. Sûrement que chacun d'entre nous a dû vivre ces heures étoilées dans votre vie. Et vous avez assez d'intuition pour dire, mais comment je peux retrouver ça? Peut-être au début, vous dites, ben, je me sens tellement fatigué, ou j'ai mal au dos, je me sens pas bien. Alors peut-être la première étape, c'est de retrouver un peu de bonne santé physique. Hein? Alors, il faut peut-être refaire un peu de vélo, un peu des pompes. Voilà, ça, c'est la préparation. Si on sent notre corps vraiment en forme, ça aide des fois à croire que la vie est abondante. Hein? Mais il n'y a pas de recette absolue. Moi, je ne peux pas vous dire faites ci, faites ça, vous sentirez l'abondance de Dieu. Il n'y a pas de recette. Mais il y a quand même des éléments. Hein? Si vous sentez qu'il y a un trop-plein, beaucoup vont dans les monastères, ou vont à Grandchamp, ou à quelqu'un de palais de Thésée. Là, tout d'un coup, il n'y a plus tous nos objets familiers, il n'y a plus tous les soucis. On peut se poser. Hein? Et donc, certains vous disent, ben, peut-être j'ai besoin d'aller un moment dans un monastère, me poser. Il y a des sessions de méditation. Des fois, ça aide. On nous donne des indications pour se recentrer, hein? Retrouver cet espace que Jésus a découvert en lui-même. J'allais dire le truc de Jésus. C'était quoi le truc de Jésus? Alors, il en avait plusieurs, mais c'était quand même aller sur la montagne. Hein. C'était aller sur l'autre rivage. Il allait dans les solitudes, dans le désert. C'est pour ça que les moines, au début du christianisme, ont beaucoup été au désert. Hein. Et puis lui, les gens le suivaient. Alors il était des fois embêté parce qu'il disait, mince, je voulais être tranquille, puis voilà qu'il y a plein de gens qui arrivent. Hein. Comme peut-être ça vous arrive, on vous recevez un téléphone. Ah, mais il y a ceci, il y a cela. La vie même, elle est habitée par Dieu aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, qu'on ne peut pas être occupé, qu'on ne peut pas avoir des choses de notre agenda. C'est bien aussi. Hein. Mais on voit que Jésus, et puis après, si on continue, on voit que Jésus, il dit, quel signe, les Juifs demandent à Jésus, quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Détruisez ce sanctuaire, en 3 jours, je le relèverai. Donc on voit que lui, il passe déjà du sanctuaire de pierre au sanctuaire de son corps. Et même son corps, il peut être remis debout. Comme nous-mêmes, on a un corps de lumière qui est indestructible. On doit faire confiance à notre corps spirituel qui ne peut pas être détruit, comme le corps du Christ, il ne peut pas être détruit. Et donc on peut être en paix même au cœur de la tourmente de la vie, même si on sent notre corps se détruire, s'affaiblir, mais notre corps intérieur, le temple intérieur est indestructible. Et on voit que les anciens, ils étaient tout simples, ils disaient, on n'a pas besoin de faire des temples énormes. Les anciens, c'était juste quelques pierres, comme Jacob dans le désert, on lève une pierre et ça nous rappelle qu'on est relié à Dieu. Ça nous redonne le sens du vertical. Ou avant, c'était simplement au pied d'un arbre, un grand arbre. Je me mets contre un arbre et je sens que Dieu est là. C'est pour ça que la nature reste un trésor. Hein. Alors, je peux aller me promener dans la nature. C'est vrai que je me dis, mais si je regarde les feuilles, les fourmis, les coccinelles, est-ce que vraiment ça m'ouvre à Dieu? Mais quand même, il y a une abondance dans la nature. Hein. Ces torrents, si vous mettez à côté d'un torrent, les Mongols, ils ont une manière de chanter très particulière, où on peut faire 2 tonalités. Quelqu'un allait apprendre là-bas à chanter. Alors, un Mongol, il l'a mis dans la rivière, sur une pierre. Bon, je ne crois pas dans l'eau, hein, sinon il faisait encore plus froid, mais il a dit, assieds-toi là, tu restes toute la journée, tu écoutes l'eau, après tu vas chanter comme l'eau. Et peut-être ça ouvre déjà à cette grandeur, cet infini qui nous habite. Donc peut-être si on se sent un peu épuisé ou on n'arrive pas à sentir Dieu, peut-être faire des journées dans la forêt à un moment, ou dans votre chambre, ou à tricoter. On doit chacun trouver ses ruses, hein, pour déjouer. Il disait, c'est pas Satan, mais c'est Hérode qui rôde, ou c'est toutes nos 1000 choses qui nous prennent la tête et qui ne laissent pas de la place à cette présence. Alors, ce texte d'aujourd'hui, il était lu aussi dans le 9 novembre, c'était ils appellent ça, dans la tradition catholique, la dédicace de Saint Jean de Latran. C'est quelque chose que nous, on ne connaît pas tellement, mais Saint Jean de Latran, c'est une église que Constantin avait donnée à l'église donc, dans les années 350 pour l'évêque de Rome. Et en fait, le pape, il est aussi évêque de Rome. Et donc, il a une église à lui pour la communauté de Rome. Et tous les évêques, ils lisent ce texte le 9 novembre pour dédicacer les lieux où il y a l'évêque. Mais l'évêque, il avait vraiment le souci de l'unité des croyants, aussi avec les autres confessions. Et donc, on retrouve cette ouverture à toutes les traditions pour dire, eh ben voilà, même le pape, il doit sortir du Vatican, il doit aller un moment dans un autre lieu pour rappeler qu'il est, il est primus inter pares, hein, il était premier entre les égaux. Il était égaux avec l'évêque de Constantinople, avec toutes les... On est tous égaux, comme après les protestants l'ont manifesté, tous les baptisés sont égaux. On est égaux avec tous les humains et dans nos cœurs habite cette présence de Dieu qui est indestructible, cette abondance, cette eau. Et c'est pour ça que c'est bien de relire Ézéchiel. qui dit bien cette abondance divine qui coule dans nos cœurs. Amen.